France Culture. Les nuits de France Culture.
L'aventurier européen. C'est le titre du troisième volet de la série que Catherine Pont-Humbert consacrait en 1998 à Giacomo Casanova dans l'émission Le cabinet de curiosité, deux siècles après sa mort. La demi-heure que durait ce troisième numéro ne rendait évidemment que très partiellement compte des multiples aventures risquées de l'existence du Vénitien. Mais elle était, pour ceux qui ne l'avaient jamais fait, une bonne invitation à se plonger dans les écrits de Casanova, dans ses mémoires, dans le monument de la littérature du XVIIIe siècle que constitue son « Histoire de ma vie ». Une œuvre écrite en bohème, alors que, devenu un bibliothécaire protégé par le comte Joseph Karl Emanuel von Waldstein, il était arrivé au terme d'une existence durant laquelle il avait séjourné dans tous les pays d'Europe, fréquenté partout la haute société, bon nombre des monarques du vieux continent, rencontrait les grands esprits et les grands talents de son siècle. Le tout en ayant été séducteur toujours, abbé, magicien, escroc, prisonnier, diplomate, etc., etc., et pour finir, un écrivain. Le cabinet de curiosité, figure de Casanova, troisième des cinq émissions, l'aventurier européen. Première diffusion, le 3 juin 1998, sur France Culture.
Monsieur Casanova.
Qui vous a dit mon nom? Du voyage incognito.
Votre réputation va plus vite que vous. Et je vous assure que ce n'est pas facile.
Oui, c'est vrai. À force de courir allègrement, le moyeu d'une roue s'est cassé.
Ah!
Soyez d'une autre, jusqu'au prochain relais. Vous savez, quand vous nous avez dépassé tout à l'heure, je me suis évanouie.
Allez, en route.
Figure de Casanova, l'aventurier européen. Stefan Zweig a défini Casanova comme poète de sa propre vie. On pourrait également dire qu'il en est l'artisan, fabriquant au jour le jour le récit de son existence mouvementée. Il construit sa vie comme une œuvre littéraire. Aventurier dans l'âme et européen de fait, Casanova a parcouru toutes les routes d'Europe, fuyant les contraintes, les obligations, mais aussi à la conquête d'une reconnaissance que la naissance ne lui a pas accordée. Si Casanova est roturier à Venise, le passage des frontières l'ennoblit. Aussi, de Paris à Vienne, en passant par Londres, il fréquente toutes les cours européennes où son talent de conversation, son assurance, son pouvoir de séduction lui valent cette reconnaissance à laquelle il n'a cessé d'aspirer.
Il n'a fait que voyager, c'est vraiment un nomade, donc c'est très laborieux, et puis c'est énorme, parce que même aujourd'hui, où on a des moyens de se déplacer beaucoup plus rapides qu'à l'époque, il y a peu de gens qui ont vu autant d'endroits, qui ont autant bougé.
Evelyne Harmony.
La plupart du temps, il voyage en chaise de poste quand il n'est pas en fond, c'est-à-dire que donc, c'est une espèce de diligence, si vous voulez. Et donc, il y a des relais tous les X kilomètres où il faut changer les chevaux, mais parfois, il n'y a pas de chevaux, donc parce qu'ils ont déjà été pris par quelqu'un qui est passé avant. Donc, vous devez passer la nuit là et attendre qu'il y en ait de nouveau. Parfois, il voyage avec sa propre voiture quand il est en fond. Quand il va à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, ça met des semaines. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'il ait tellement voyagé alors que les conditions étaient si difficiles, qu'il n'y avait pas de bonne route, qu'il y avait donc uniquement les chevaux. Oui. Et ça ne l'empêche pas d'avoir envie toujours de bouger, d'aller ailleurs. C'est très rare qu'il s'installe pour plus que quelques mois dans une ville ou une autre. Parfois, il n'y passe que 2 semaines et il circule en permanence. On peut juste dire qu'il est né à Venise, que dans sa jeunesse, il a d'abord parcouru toute l'Italie. Ensuite, il a été à Constantinople, Corfou, et puis il a vécu 2 ans à Paris. Il a fait le tour de la Hollande, de la Russie, enfin, surtout Moscou et Saint-Pétersbourg, la Pologne, toute l'Espagne. Il a vécu à Londres pendant pratiquement 1 année. Oui, c'est en permanence qu'il est sur le départ. Il ne peut pas rester installé, en fait. C'est plus fort que lui. Il faut toujours partir, aller plus loin. Et il a fait toute l'Europe, quoi. À part l'Irlande et la Grèce, où il n'a jamais mis les pieds.
Ce mouvement permanent qu'est la vie de Casanova, on peut être tenté, Evelyne Harmuni, de l'interpréter comme un processus de fuite, en fait, permanent. Et alors, dans ce cas, bien sûr, on est tenté de se demander que fuit Casanova.
Il fuit souvent la police, en tout cas les ennuis, parce qu'il a fait de fausses lettres de change, mais il a déjà... C'est déjà dans sa nature au départ, quoi, de voyager, de bouger. Il a toujours besoin de voir de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, d'apprendre comment les gens vivent. Il est très curieux des autres mentalités, des autres pays. Il adore apprendre des langues, apprendre à connaître des gens. Je crois qu'il s'ennuie très vite. C'est surtout l'ennui qu'il fuit au départ. Bon, après ça, il fuit les ennuis, mais... C'est un nomade de nature, quoi. C'est quelqu'un qui ne supporte pas de s'installer, qui ne supporte pas les habitudes, qui ne supporte pas de voir les mêmes personnes. Il n'a l'impression de vivre que quand il découvre du nouveau.
Parce qu'il est un homme libre et dégagé de tout préjugé, on peut penser que Casanova est un voyageur par excellence et qu'il a en quelque sorte tous les atouts du voyageur. Mais est-ce que cette liberté et cette absence de préjugés sont à l'époque une bonne carte de visite en quelque sorte ?
À mon avis, oui, parce qu'il s'intègre parfaitement dans tous les milieux. Par exemple, il arrive dans un pays... comme l'Espagne qui est très pratiquant, il va essayer de respecter en tout cas les interdits, les jours maigres et tout ça, même s'il n'en pense pas moins. Il s'adapte très facilement aux mœurs locales, ça l'amuse beaucoup en fait, j'ai l'impression de connaître les endroits à la mode, de faire ce qui se fait, de savoir ce qui est de bon ton à Genève et à Varsovie, que c'est pas la même chose. Il en est assez fier de son côté... adaptable, souple. Donc je crois que oui, c'est une bonne carte de visite, parce qu'à l'époque, en tout cas, disons dans la bonne société, il y a justement une vocation universaliste quelque part. Tout le monde parle en tout cas français, ou si pas français, latin. Donc il y a déjà une langue universelle, et puis il y a beaucoup de jeunes nobles qui vont à Paris... quelques années pour se former l'esprit. Et donc, justement, il y a déjà une volonté d'universalisme, d'uniformité, de la pensée, des mœurs.
Et puis, c'est vrai que Casanova est capable d'entamer un dialogue avec des personnalités extrêmement différentes dans différents pays. Et en cela, alors, il est remarquablement... européen, c'est-à-dire que il parcourt géographiquement bien sûr toute l'Europe, mais comme vous le disiez à l'instant, il se donne la peine dans chacun des pays de découvrir les spécificités du pays qu'il découvre.
Oui, tout à fait. Et puis il parle de tout parce qu'il a beaucoup de culture, donc il parle de théologie avec un musulman en Turquie, il parle de kabbale avec un juif à Amsterdam et il connaît par exemple les fêtes juives, on voit ça dans les mémoires. Il arrive vers Noël chez des amis juifs qui lui disent « Ah, vous ne fêtez pas le petit Jésus ?» Et il est là « Non, non, je viens fêter Hanouka avec vous. » C'est déjà pas évident à l'époque, surtout que les juifs étaient assez mal perçus et que dans certaines villes, ils avaient des rubans jaunes, des signes distinctifs et tout. Lui, il connaît leurs coutumes et il ne juge pas. Parce qu'il estime que lui-même, étant tellement hors norme, il ne peut pas se permettre de juger les autres. Donc, quand il rencontre même un homme qui lui dit qu'il est amoureux de sa propre fille, il ne le juge pas, il ne trouve pas ça monstrueux ou contre nature, il ne le critique pas. Il se contente de le plaindre en lui disant qu'il n'y a pas de chance, mais c'est tout. Et il n'a rien contre les homosexuels ou les libertins outrés comme Lord Talou, qui quand même... Et bon, il dit, moi je n'ai pas ces goûts-là, mais ça ne le dérange pas, ça ne le choque pas, il ne se dit pas, je ne vais plus voir ces personnes parce qu'ils ne sont pas fréquentables. Il est vraiment au-dessus de ça. Et c'est probablement pour ça qu'il s'entend avec tout le monde.
J'avais acheté une voiture qu'on appelle un solitaire à trois glaces, à deux roues, à brancard, avec des ressorts à lamadis, doublée de velours cramoisi, presque neuve. Je l'ai eu pour 40 louis. J'ai envoyé à Paris deux fortes malles par la diligence, n'ayant gardé dans mon porte-manteau que mon nécessaire, et j'allais partir le lendemain, en robe de chambre et en bonnet de nuit, décidé à ne sortir de mon solitaire qu'au bout de 58 postes sur le plus beau chemin de toute l'Europe.
Ce qui est probablement assez caractéristique de la façon de voyager de Casanova, c'est que l'horizon de ses voyages est essentiellement humain, c'est-à-dire qu'il se déplace pour aller voir des gens. Il y a des rencontres toujours derrière chaque voyage.
Ah oui, oui, mais en fait déjà, il déteste la nature visiblement. Je ne sais pas si c'est... Enfin, je crois qu'au XVIIIe siècle, il ne s'intéresse pas tellement aux paysages, par le prince de Ligne qui aime les jardins, mais il ne décrit jamais un paysage. Il dit « il y a une forêt, point ». Il ne s'intéresse qu'aux villes et aux gens qui sont dedans. Les monuments, ça ne l'intéresse pas non plus. La peinture, un petit peu, mais c'est surtout les villes, les ambiances qu'il aime beaucoup. Donc, s'il se plaît, il reste quelques mois. S'il ne se plaît pas, il part rapidement. Il n'aime pas Vienne parce que c'est hyper collé-monté. Il aime beaucoup Paris parce que, justement, c'est très sexuellement libéré. Et donc, là, il reste longtemps. Mais c'est surtout ça qui l'intéresse, les ambiances, les atmosphères, la façon de vivre. La ville elle-même, il se moque pas mal qu'elle soit belle ou laide.
En fait, ce qu'il faut dire également, c'est que Casanova appartient à une classe sociale qui est extrêmement importante au XVIIIe siècle, cette classe d'aventuriers qui est faite de toutes sortes de personnages, artistes bien évidemment, mais aussi des abbés, puisque Casanova l'est au départ. Et tous ces gens-là, en fait, se déplacent un petit peu dans l'ombre des grands.
Mais en fait, ce qu'il y a à cette époque-là, c'est que bon, ce sont les grands qui ont des richesses. Il y a énormément de petites cours qui veulent copier Versailles et qui ont donc qui veulent tout avoir. Théâtre français, théâtre italien, des peintres attitrés, des musiciens et tout. Donc il y a énormément de vocations qui sont suscitées par là, et les gens circulent énormément d'une cour à l'autre. Ils vont voir chez Catherine II, ils vont voir chez le duc de Württemberg, ils font tout le tour. Ils sont extrêmement nombreux, et parmi eux, il y a évidemment donc des peintres, des musiciens, mais aussi de tout, des artificiers, des oculistes, des voyants, des thaumaturges comme le comte de Saint-Germain. Il y a vraiment... Mais parce que, justement, le seul moyen, finalement, d'avoir de l'argent, c'est d'aller dans une cour et d'obtenir une pension. Donc, ils vont de l'une à l'autre en permanence. Ils sont effectivement très nombreux. Et c'est une classe qui a disparu avec la Révolution, parce que, comme la noblesse a été décapitée et que les mentalités ont beaucoup changé, qu'il y avait moins d'argent dans les cours, ces gens n'avaient plus de raison d'être et donc ils ont disparu.
Me voilà dans la capitale de l'Autriche pour la première fois, dans le bel âge de 28 ans. J'avais quelques effets, mais je n'avais guère d'argent. Tout à Vienne était beau. Il y avait beaucoup d'argent et beaucoup de luxe, mais une grande gêne pour ceux qui étaient dévoués à Vénus. Des scélérats espions qu'on appelait commissaires de chasteté étaient les bourreaux impitoyables de toutes les jolies filles. L'impératrice, qui avait toutes les vertus, n'avait pas celle de la tolérance lorsqu'il s'agissait d'un amour non légitime entre un homme et une femme. Cette grande souveraine, très religieuse, haïssait en général le péché mortel, et désirant de se faire un mérite devant Dieu en l'extirpant, elle crut avec raison qu'il fallait le persécuter en détail. «
fait, ce qui est peut-être intéressant dans ces rencontres, c'est de savoir que finalement, il est, comme toute cette classe d'aventuriers que nous sommes en train de dépeindre, à la recherche permanente d'une protection. Il est fragile tout de même.
Ah oui.
C'est un aspect important qu'il faut souligner.
Oui, parce qu'il n'a aucun moyen de... Enfin, il n'a aucune source de revenus. Donc, il est toujours à la merci de pertes au jeu. Et bon, en fait, il aimerait bien une protection. Il aimerait bien faire comme Saint-Germain, qui a eu des rentes énormes de la part de Louis XV et carrément un appartement au château de Chambord. Mais en même temps, il ne s'est pas déterminé à se fixer quelque part. C'est ça qui est très frappant chez lui. C'est que d'un côté, il court les différentes cours d'Europe, justement, à la recherche d'une pension, d'une place. Et d'un autre côté, il ne sait pas se fixer. Mais c'est vrai qu'il n'a aucun moyen de subsistance à part le jeu. Et il est toujours à la recherche d'une source d'argent. Mais d'un autre côté, il ne s'inquiète pas du lendemain. Ça, c'est ce qui est très frappant chez lui. Il se dit, bon, aujourd'hui j'ai de l'argent, demain je n'en aurai plus, on verra bien après. Ça, c'est ça qui est sympathique chez lui, parce qu'il n'est pas calculateur, il n'est pas mesquin. Il flambe tant qu'il a, et puis après, il s'en procure comme il peut, soit en trichant un peu au jeu, soit en escroquant des personnes qui le prennent pour un grand magicien. Il vit comme un joueur, en fait. Il risque tout ce qu'il possède, il risque en permanence sa réputation, tout son argent. Il aime les coups de poker. Et par exemple, donc à Paris, quand il se retrouve après son évasion des plombs et que l'abbé de Bernis lui propose de devenir financier, de trouver des fonds pour l'école militaire que voulait faire Madame de Pompadour, il accepte, alors qu'il n'y connaît rien, il sait qu'il n'y connaît rien. Mais il accepte quand même en se disant qu'il va trouver une idée géniale, qu'il va pas créer un nouvel impôt, mais qu'il va arriver à remplir les caisses de l'État. On lui demande 20 millions, il dit « j'en trouverai 100 ». Et il ne sait absolument pas, comme il dit, il ne connaissait absolument rien aux théories financières, il ne sait absolument pas comment il va se débrouiller. Mais il va tout de même déjeuner avec des financiers, et en les écoutant, enfin, on parle de loterie, il dit « oui, c'est ça mon idée ». Et donc voilà, il est chargé de la création d'une loterie pour financer l'école militaire. Et il devient très riche. Et on l'a soupçonné d'être parti avec la caisse d'ailleurs.
Vous avez fréquenté la cour de France?
Toutes les cours d'Europe se sont disputées, monsieur Casanova.
Je n'ai jamais considéré que c'était un vrai privilège. Les cours n'étaient pas ce jardin de fleurs rares qu'on imagine. Que de comtesses, de princesses aux ridées desséchées, je rencontrais. Je parle de mon époque, bien sûr. Aujourd'hui, les reines, à ce que je vois, madame, savent bien choisir leur dame de compagnie.
Mais qu'est-ce qui vous fait penser que je pourrais être une dame de compagnie de Sa Majesté?
Vous sous-estimez les qualités de devin de Monsieur Casanova, madame. Elles ne constituent qu'un des secrets de ses succès. Et alors, Monsieur Casanova, à votre charmant accent, s'est mis à rêver que vous étiez autrichienne, comme Marie-Antoinette. Pourquoi pas?
L'appellation aventurier est aujourd'hui une appellation qui fait plutôt rêver à notre époque. Et on la colle très volontiers à Casanova. Et lorsque le mythe vient se greffer sur lui, c'est volontiers comme aventurier libre, avec cette espèce de liberté insolente. Est-ce qu'à l'époque, à son époque, Gérard Laouati, le fait d'être aventurier était si confortable que cela et si enviable?
En général, on entendait un murmure s'élever quand Casanova entrait, il en témoigne. Voilà Casanova, parce qu'il fait partie des aventuriers les plus flamboyants et de ceux qui ont poussé ces aventures à leurs limites. Alors, au XVIIIe siècle, si vous étiez un grand aristocrate, eh bien l'aventurier, ou une grande aristocrate, l'aventurier, c'est celui qu'on utilise comme un homme sans conséquence, parfois. Il ne faut jamais oublier qu'une une partie des succès féminins de Casanova vient du fait qu'on le considérait comme quelqu'un de sans conséquence. Il y a une très belle anecdote en Angleterre, je crois, où Casanova rencontre une grande aristocrate qui l'honore de sa tendresse, et le lendemain, ils se rencontrent en public et la femme ne lui dit pas bonjour. Et Casanova s'approche, et je crois qu'elle lui dit à peu près ce genre de choses ne crée pas un titre de présentation. Hein. Donc là, on voit bien quand même la relation de la grande aristocratie avec ses marginaux. Parce que je crois que le terme aventurier aujourd'hui prête un peu à confusion. Et aujourd'hui, chez l'aventurier, il y a une dimension presque sportive. Dans le contexte du XVIIIe siècle, il n'y a pas cette dimension sportive. Je ne pense pas aux exploits érotiques de Casanova. Il y a plutôt ce que l'on appellerait la marginalité. L'aventurier du XVIIIe siècle est un marginal. Alors, il y a une marginalité. Pourquoi ? Parce que Casanova, par exemple, est un fils de comédien, quelqu'un qui n'a pas de titre. Il va se forger un nom et un titre, hein, puisque l'alphabet appartient à tout le monde. Il va se faire appeler Casanova de Saint-Galt, et il va prendre le titre de chevalier en jouant sur un ordre que le pape lui a donné, mais personne n'était dupe. Hein, il usurpe un peu un titre. Donc, l'aventurier du XVIIIe siècle, c'est quelqu'un qui est quand même dans une fausse position. Et Casanova va tout faire pour échapper à ce destin ou à cette image de l'aventurier. Pourquoi ? Parce qu'il estime qu'il a reçu une éducation au-dessus de sa condition. Et qu'il s'est rendu gentilhomme, dit-il, par ses travaux, par sa culture et par son ambition d'écrivain.
J'entre dans une galerie et je vois le roi qui passe, se tenant appuyé avec un bras à travers les épaules de M. d'Argenson. La tête de Louis XV était belle à ravir, et plantée sur son cou, l'on ne pouvait pas mieux. Jamais peintre très habile ne put dessiner le coup de tête de ce monarque lorsqu'il la tournait pour regarder quelqu'un. On se sentait forcé de l'aimer dans l'instant. J'ai pour lors cru voir la majesté que j'avais en vain cherchée sur la figure du roi de Sardaigne. Je me suis trouvé certain que Madame de Pompadour était devenue amoureuse de cette physionomie lorsqu'elle parvint à se procurer sa connaissance. Ce n'était pas vrai peut-être, mais la figure de Louis XV forçait l'observateur à penser ainsi.
Alors Casanova a approché avec plus ou moins de bonheur un certain nombre de grands de l'époque. Plusieurs monarques, l'impératrice Marie-Thérèse, l'empereur Joseph II, etc., etc. Quelles sont parmi ces rencontres celles qui, à travers le récit qu'il en fait, ont occupé une place particulièrement importante à ses yeux ?
Ben, en fait, donc, il vient de Venise, qui est une république, et le premier roi qu'il a vu, c'était à Turin, et le roi de Sardaigne, je crois. Qui ne l'a pas du tout impressionné, il était très déçu parce qu'il s'attendait à ce qu'un roi soit quelqu'un d'exceptionnel, d'extraordinaire, spécialement beau, intelligent. Et c'était un roi bossu et assez laid, apparemment pas très propre. Et donc il a été très déçu. Le deuxième, c'était Louis XV, qui l'a beaucoup marqué parce que justement, pour lui, c'était ça l'image d'un roi, quelqu'un de majestueux, assez, avec un cérémonial assez marqué. Il adore ça chez les rois. Et quand ils ne sont pas assez distants de leur peuple, il est tout surpris et quelque part déçu, comme avec le roi de Pologne, qu'il trouve très sympathique, très intelligent, mais qui est beaucoup trop proche, quoi, en fait. Il était à un dîner, et puis il y a quelqu'un qui entre, tout le monde se lève, et on lui dit « c'est le roi ». Il n'en revenait pas d'une simplicité pareille. Lui, il aime bien les étiquettes, les antichambres, les révérences, ce genre de choses. Il ne les aime pas tous. Il n'aime pas tellement Frédéric II, parce qu'il l'a trouvé justement trop rustre, pas assez raffiné. Et puis, ils ont parlé de choses et d'autres. Il voulait se faire engager. Et puis, ça ne s'est pas très bien passé, parce qu'il a improvisé. Quand Frédéric II l'interrogeait sur les impôts, il a inventé à peu près n'importe quoi. Et Frédéric II a rapidement vu que ce n'était pas quelqu'un de très compétent. Il aime beaucoup Catherine II, qu'il a trouvée très sympathique et qui lui a beaucoup plu.
Pour lui, la Russie, c'est une terre promise.
Alexandre Stroyev.
C'est une terre, c'est un pays où il peut faire vraiment des miracles, où il peut disons, se rapprocher vraiment du trône, parce que c'est le seul pays au XVIIIe siècle où les femmes gouvernent. En quelque sorte, c'est un royaume des femmes où va Casanova. Il veut plaire, devenir favori de l'impératrice, il veut plaire aux femmes, et d'une manière paradoxale, Casanova échoue justement dans ce paradis des femmes. Pourquoi ? Justement parce que Catherine II, elle ne voulait pas qu'un homme mélange ses deux métiers, un conseiller, un donneur de conseil, un favori. Et Casanova, justement, il voulait jouer sur ces deux tableaux. Il a présenté plusieurs projets en Russie, il voulait devenir en quelque sorte un conseiller de l'impératrice, mais n'oublions pas, en Russie, Casanova vient quand il a déjà 40 ans. Pour nous, 40 ans, c'est un homme dans la fleur de son âge. Pour Casanova, c'est autre chose. Il se sent déjà un homme après sa mort. Casanova sent qu'il a vécu la première moitié de sa vie. Pour lui, c'est le déclin. Et Catherine II, elle ne s'intéresse plus aux gens qui ont une quarantaine d'années. Les favoris de Catherine II sont plus jeunes. C'est assez évident. Elle prend les hommes qui ont 30 ans.
D'un style très modeste, Catherine II disait son avis avec précision. Et son esprit paraissait imperturbable autant que son humeur, dont sa figure riante annonçait l'égalité. C'en étant fait une habitude, cela ne devait pas lui coûter de la peine, mais cela ne diminue pas le mérite de la chose, car pour l'exercer, il faut avoir une force supérieure aux mouvements ordinaires de la nature humaine. Elle vint à bout d'entreprises qui, avant qu'elle montât sur le trône, paraissaient grandes à toute l'Europe. Il semble qu'elle ait voulu la convaincre qu'elle les trouva petites.
Mais cette confiance en lui-même, c'est vrai qu'il l'a pendant une bonne partie de sa vie. Il y a tout de même un moment, à partir de 1764, où on la voit un tout petit peu en déclin.
Oui, parce que là, il a 38 ans, il a eu beaucoup d'échecs, et il a moins confiance en lui, parce qu'il commence à penser au lendemain. Avant, il vivait dans l'instant. Donc, comme je disais, tant qu'il a de l'argent, il le dépense sans compter, puis après, et là, il commence justement à se dire « je vieillis, il faudrait que je me trouve un emploi stable ». Et je crois que les gens le sentent, et c'est pour ça que ça se passe moins bien. Il fait moins illusion, parce que les gens voient... Avant, il avait toujours l'air de n'avoir rien à perdre. Et là, les gens voient qu'il attend quelque chose, qu'il a quelque chose à perdre, et sa confiance en lui s'effrite à ce moment-là, quoi, parce que... Il fait moins impression, et comme il dit aussi, il est moins jeune, et ça marche moins bien à partir de ce moment-là. Bon, ça va encore, mais c'est la descente. Comme il dit lui-même, à son retour de Londres, ça a été la descente plus ou moins rapide.
Être aventurier, ça pouvait paraître enviable, mais Casanova n'est pas dupe. Hein, et l'aventurier, c'est quelqu'un qui est sur la brèche. Et en règle générale, Casanova échappe à cette loi. Les aventuriers finissent très mal. Hein, ils se suicident ou ils finissent dans des prisons. Pensez à Cagliostro, Zanovitch se suicide, Ange Goudard finit assez mal. Donc Casanova, par l'écriture, par la littérature et grâce au comte de Waldstein, qui lui a quand même fourni dans la dernière période de sa vie, donc pendant 13 ans, hein, des conditions d'existence de 85 à 98 qui sont plus que convenables. Il vit quand même dans un des plus beaux châteaux de Bohème, il a 40 000 volumes dans la bibliothèque à sa disposition, il a une cuisinière qui améliore l'ordinaire et qui donne la vérole aux gens du château, donc c'est quand même pas mal. Hein, Casanova a échappé à ce destin un peu lamentable de fin de vie des aventuriers.
Figure de Casanova, l'aventurier européen,
avec Evelyne Harmeny, auteure de Casanova ou l'Europe d'un libertin, presse interuniversitaire européenne de Bruxelles, Gérard Laouetti, professeur à l'université de Pau, et Alexandre Stroyev, directeur de recherche à l'Institut Gorki de Moscou, auteur des Aventuriers des Lumières, publié aux Presses universitaires de France. Texte lu par Éric Dufaille, recherche documentaire Xavier Carrère, le cabinet de curiosité, Rémi Fessard, Noélie Louis-Marie, Vincent Deck, Catherine Pont-Imbert.
C'était le troisième de 5 numéros de la série Figure de Casanova, proposé par Catherine Pont-Imbert pour le cabinet de curiosité. Première diffusion le 3 juin 1998 sur France Culture. À suivre.